Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Tchuss, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Satan. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Kiun, avec la présentation de Kamisama, la chronique du volume 5 de My Hero Academia, et la présentation du manga L'Oiseau Bleu. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On parlera culture avec les numéros d'urgence au Japon. On aura ensuite une actualité concernant le film About Kim So-hee, un film à propos du système de classement en Corée du Sud. Et on finira avec une news musicale concernant le groupe Six Stones qui se rebelle avec leur 9e single Abarero. On commence donc l'émission avec la toute première chanson, c'est Rose de Anna Tsuchiya qui est servie de premier opening pour l'anime Nana, et on revient juste après pour la présentation du groupe Satan. Donc c'était Anna Tsuchiya avec la chanson Rose qui a servi de premier opening pour l'anime Nana. On passe maintenant à la présentation du groupe Satan. Donc c'est un groupe japonais de Visual Kei qui a fait ses débuts en 2008 et qui est actuellement en pause. Il se compose de deux membres, Mister Satan au chant et Ina à la guitare, et on compte également deux ex-membres, Shia à la basse et DK à la batterie. Formé en 2008, Satan est un groupe avec un univers très particulier qui a commencé avec un style cyberpunk, des couleurs fluo et des dreads synthétiques. Musicalement, il ressemble à un groupe américain vraiment bourrin, noise et déjanté. Leurs chansons sont uniquement en anglais, ce qui ajoute un brin d'originalité pour un groupe japonais. Après le départ de Frenzy, le nom alternatif de Mister Satan, Ina prend sa place et devient donc le chanteur du groupe. Sa voix ainsi que sa façon de chanter ne diffèrent pas vraiment de celle de Frenzy, ce qui est une bonne chose car cela n'a pas apporté de gros changements musicalement parlant. Le style a ensuite changé, il devient un peu moins flashy mais garde toujours son concept de horror history. Lorsque Frenzy décide de revenir dans le groupe, c'est au tour de DK et Shia de quitter le groupe pour des raisons encore inconnues. Début 2011, Frenzy entame sa carrière solo, un seul disque a vu le jour pour le moment, donc de ce côté-là, et son projet semble oublié pour l'instant. C'est aussi début 2011 que Frenzy rejoint le groupe Blood, aux côtés de Kiwamu, Satan entrant donc en pause. Environ un an plus tard, Frenzy quitte Blood, pour certaines raisons qu'il ne veut pas évoquer, et décide de reprendre Satan avec Ina. Peu de temps après, un nouveau mini-album est annoncé, celui-ci laisse présager un changement de label, étant donné qu'il n'est pas en vente sur le shop web du label Starwave Records, l'ancien label du groupe. Une chose qui est donc confirmée lorsque Satan annonce la création de son propre label, Satanic Records, et la réédition de leur album 13 Scream. Satan donne alors une série de concerts, puis ne donne plus de nouvelles depuis 2015. Voilà, donc ils sont en pause, mais plus ou moins finis, quoi. Côté discographie, on a donc 4 albums au total. Le premier, c'est Welcome to the Dead World, qui est sorti le 16 juillet 2008. Et le dernier, 13 Ice Cream, spécial DX Edition, qui est sorti le 3 août 2012. On a aussi 3 singles. Le premier, Death Song from the Sticks, qui est sorti le 21 avril 2008. Et le dernier, Alice in the Dead World, qui est sorti le 26 mai 2010. On a également 3 compilations, la première c'est Visualism The Cure Century qui est sorti le 30 juillet 2008 et enfin la dernière compilation c'est Starwave Records qui est sorti le 30 juin 2010. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Satan, on commence avec Bloody Bride Night of the Living Dead, la version New Tech, et on viendra juste après pour parler du manga Kamisama. We'll be right back.
Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Satan avec la chanson Crawling from the Graves. On passe maintenant à la présentation du manga Kamisama. Donc on change totalement de registre. C'est un kodomo de genre comédie fantastique, histoire courte, tranche de vie, qui a été écrit par Kotobuki Keisuke. La version japonaise est parue en 2006 et la version française est parue le 28 septembre 2006 aux éditions Kiun. Les deux versions donc avec 3 tomes qui terminent la série. Vous pourrez retrouver la première édition de Kamisama dans le commerce au prix de 11,10€, ainsi qu'une réédition au format souple qui est parue en 2014 et qui est disponible au prix de 9,65€. L'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc le résumé de cette série, à cheval entre le manga et le conte fantastique, cette œuvre parfois fort féerique nous propose plusieurs petites histoires de la vie de tous les jours, le tout sur une note très enfantine et merveilleuse. Les thèmes récurrents dans ces 3 tomes sont les divinités ainsi que les animaux, et plus particulièrement les chats. Dans le premier livre, intitulé « La mélodie du vent », Lucie est une enfant sage et modèle qui prend soin de ne jamais parler aux étrangers, comme le lui a appris sa mère. Cependant, lorsqu'elle se fait accoster par un chien qui parle, elle n'hésite pas une seule seconde à le suivre, et c'est ainsi qu'elle se retrouvera à son insu dans le ventre d'un chat gigantesque. Le second livre intitulé Les Contes de la Colline, donc on retrouve Shimashima, qui est un chaton auparavant recueilli par la jeune Miyako, une jeune fille affective mais souffrante. Alors qu'il tente de la sauver, il entre dans un monde étrange entre la vie et la mort. Arrivera-t-il à se sortir de ce pétrin et à rejoindre sa maîtresse? Et pour le dernier livre intitulé Au bout du chemin, Aya adore la neige et rêve de rencontrer la déesse de la neige qui, comme on le dit dans les parages, fait tomber les flocons selon ses envies. Par un beau jour d'hiver, elle la rencontre finalement et lui offre un chocolat chaud. Cependant, Yuki, la déesse, semble avoir fait tomber beaucoup trop de neige cette fois-ci, et cela risquerait bien de coûter la vie à Aya. Voilà, donc je rappelle que la série Kamisama est à retrouver en 3 tomes aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Brainwash de Aoi R, et on viendra juste après pour la chronique du volume 5 de My Hero Academia.
もう一度過去に戻れたら、そんな風に後悔したくない。
Donc c'était Aoi Air avec la chanson Brainwash. On passe maintenant à la chronique du volume 5 de My Hero Academia. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, comédie, vie scolaire, surnaturel, qui a été écrit par Horikoshi Kohei, traduit par David Le Quéré et prépublié dans le Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 37 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Kiun avec pour le moment 34 tomes. Ce volume 5 est sorti le 8 septembre 2016 au prix de 6,95€. Donc le résumé de ce tome, et c'est parti pour la troisième épreuve du championnat. Les 16 élèves encore en lice vont s'affronter lors d'un tournoi sans merci. Confronté à un alter de contrôle mental, Deku parvient à gagner son premier duel en activant le One for All dans deux de ses doigts avant d'envoyer son adversaire hors du ring. Mais le prochain match s'annonce ardu car son opposant n'est autre que Shoto et le jeune garçon est bien décidé à l'emporter. De son côté, Ochako s'apprête à se mesurer à Katsuki. Le combat promet d'être explosif. My Hero Academia avait quelque peu surpris au tome précédent puisque le championnat de UA, jusqu'ici composé d'épreuves en tout genre, s'était orienté vers un tournoi, élément classique de tout Neketsu, un ingrédient qu'on ne voyait pas venir tout de suite. Pourtant, penser avoir affaire à un tournoi long et classique aurait été une grave erreur, puisqu'en réalisant son rêve d'introduire ce concept dans sa série, Kohei Horikoshi s'arrange pour rendre cette étape utile, mais aussi très furtive. Dans la forme, cette phase finale du championnat ne surprend guère, puisqu'il est simplement question de combat à 1 contre 1. Mais l'avantage de cet arc est la manière dont l'auteur ne se concentre que sur les rencontres essentielles, permettant aux festivités de ne pas traîner en longueur, si bien que le tournoi trouve sa fin dès ce volume. La manière de faire de l'auteur est des plus remarquables, tant celui-ci, avec un élément scénaristique vu et revu, parvient à donner un vrai souffle à son récit. Le concept du tournoi n'est pas vraiment renouvelé ici, mais Kohei Horikoshi le traite de manière on ne peut plus rationnelle. Les personnages tels que nous les connaissons n'ont pas un répertoire de techniques très riche, et étant donné leur pouvoir, ces derniers s'épuisent facilement. Nous n'assistons donc pas au cheminement classique du Neketsu à base d'échanges de techniques ultimes. Les discours sur le rêve et l'espoir sont bien présents, mais servent surtout à développer les personnages plus qu'à apporter des rebondissements peu légitimes dans la compétition. Car le tournoi de UA est surtout l'occasion de mettre en avant les héros en herbe clés de la seconde A, dont Bakugo qui réussit toujours aussi bien dans l'archétype du rival qu'il est. Là aussi, le mangaka surprend en faisant du personnage un combattant avide de baston et de réussite, mais dont le sang bouillonnant ne l'empêche pas d'avoir un regard objectif sur ses capacités et ce qui l'entoure. Néanmoins, on retient surtout Shoto Todoroki, véritable tête d'affiche du volume, qui trône d'ailleurs sur la couverture. Déjà bien introduit dans l'opus précédent, Shoto bénéficie de grands moments dans ce volet, en plus de voir sa psychologie se développer drastiquement, à tel point qu'il pourrait aisément remplacer Bakugo dans le rôle du rival du héros. Et justement, le rôle d'Izuku est des moindres, preuve supplémentaire que l'intrigue joue sur l'ensemble de son casting, plus que sur son héros qui s'avère régulièrement anecdotique. Gageons aussi que malgré le schéma classique de la compétition, l'auteur maintient le lecteur en haleine à plusieurs reprises, grâce à son dessin qui fait toujours dans le spectaculaire et son trait qui garde une grande densité. Les progrès du mangaka depuis Crazy Zoo impressionnent à chaque tome. En définitive, le championnat de UA dans sa globalité se sera montré remarquable pour sa capacité à jouer avec les codes classiques du tournoi, tout en apportant son lot d'innovations, surtout chez les personnages, et en ne traînant jamais en longueur. Au terme de la compétition, on pourrait se questionner sur la suite de l'œuvre, mais là aussi Kohei Horikoshi nous met l'eau à la bouche en introduisant une menace qui se montre déjà glaçante. On espère donc que la suite redoublera d'intensité. Voilà, donc je rappelle que My Hero Academia est à retrouver avec pour le moment 34 tomes de sortie aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite la chanson The Day de Porno Graffiti qui est servie de premier opening pour l'anime Boku no Hero Academia. Et on revient juste après pour les sorties manga de la semaine. この奥でもない世界にはあるんだよ少しも変ではないの踊る身に足を取られてるあなたを責めているわけじゃないんだよ一人ここに遊ぶそこで Donc c'était Porno Graffiti avec la chanson Z-Day qui a servi de premier opening pour l'anime Boku no Hero Academia. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 5 avril avec Shepika, le volume 2 de And Yet You Are So Sweet, le volume 1 de Beauty and the Beast of Paradise Lost, le volume 1 de Blue Lock épisode Nagi, le volume 13 de Blue Lock qui sera disponible en édition normale et en édition collector. On aura le volume 16, le volume 6 de Criminelle Fiançailles, le volume 2 de Joker of Destiny, le volume 6 du Roi Démon et moi et nos 10 enfants, le volume 6 de Rakai Blues, le volume 7 de The Quintessential Quintuplets, l'édition couleur, et le volume 10 de Vampire Dormitory. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 4 de Back From Hell, le sage persécuté se réincarne pour se venger, le volume 5 de Excuse Me Dentist, It's Touching Me, le volume 17 des aventures de Kirby dans les étoiles, le volume 1 de Villainess Level 99 et le volume 4 de Witch Watch. Aux éditions Nobi Nobi, on aura la sortie du volume 1 de Bibliophile Princess, le volume 18 de Iruma à l'école des démons, le volume 10 de Mon ami des ténèbres, le volume 3 de Père et fille qui sera le dernier tome de la série, le volume 18 de Kantakagi Mutakin et le volume 19 de Shine. Aux éditions Le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 3 de Box, qui sera le dernier tome de la série, et la sortie du volume 6 du Vagabond de Tokyo. Aux éditions Crunchyroll, on aura la sortie du volume 12 de Chainsaw Man, qui sera disponible en édition normale et en édition collector. Aux éditions Mangetsu, on aura la sortie du volume 13 de Chilulan, le volume 2 de Ma Revenante Bien-Aimée, et le volume 1 de Nate and the Living Cat. Aux éditions Doki Doki, on aura la sortie du volume 4 de Coffee Moon, le volume 8 de Freya, L'Ombre du Prince, le volume 1 de Hachi and Marulu, Chat des rues, le volume 1 de Space Chef Kaiser, l'édition grand format, le volume 2 de The Dark Saint et le volume 8 de The Eminence in Shadow. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 1 de Nos Cœurs Figés, aux éditions Glénat, la sortie du volume 8 de Shangri-La Frontière et le volume 2, le Tokyo Revengers Character Book 2, Walala Black Dragon. Et aux éditions Kamondo Books, on aura la sortie du volume 1 de The Legendary Spearman. On aura d'autres sorties ensuite pour jeudi 6 avril avec chez Komiku le volume 17 de Arte, le volume 3 de L'Enfant du Dragon Fantôme, le volume 3 du Destin de Claire et le volume 3 de No Revenge for Marie. Aux éditions Mana Books, on aura la sortie du volume 6 de Assassin's Creed Dynasty, le volume 2 de Corpse Party Blood Covered et le volume 1 de Your Turn to Die. Aux éditions Kiun, on aura la sortie du volume 1 de Badox, le volume 4 de Clevates, le volume 10 de Deathmount Deathplay, le volume 5 de L'Eden des Sorcières et le volume 2 de Valalian, The Black Iron. Aux éditions Mintacalm, je vais y arriver, on va avoir la sortie du volume 1 de Cop, le volume 2 des Lois de la Web Romance et le volume 4 de My Horror Game. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 1 du Clan Dépôt et aux éditions Omake Books, la sortie du volume 2 de Psychopath Girlfriend et le volume 2 de Watch and Die. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 7 avril avec chez Noevecraft la sortie du volume 6 de Arrête de me chauffer Nagatoro, qui sera disponible en édition normale et en édition de luxe. On aura le volume 2 de Anebad et le volume 3 de Tonikaku Kawaii. Aux éditions Naban, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Aubin les Yankees. Aux éditions Anna, on aura la sortie du volume 1 de Au revoir Héron. Les volumes 1 et 2 de Club Naked, ce volume 2 qui sera le dernier tome de la série. On aura le volume 1 de J'ai apprivoisé un gangster. Les volumes 1 et 2 du Coup du Melon, donc une série terminée avec ces deux tomes. On aura la sortie du volume 1 des Fausses Rumeurs de Minami. Le volume 1 de Poussière d'étoiles sentimentales. Le volume 1 de Ces baisers me font fondre et le volume 1 de Sous les couleurs de l'aube. Aux éditions Kana, on aura la sortie du volume 32 de Black Butler, le volume 10 de Naruto l'édition Hokage et le volume 17 de Witchcraft Works, qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Ankama, on aura la sortie du volume 1 de Darwin, aux éditions Vega Dupuis, la sortie du volume 7 de Genesis, la sortie du volume 5 de Primal Gods in Ancient Times et le volume 3 de The Far East Incident. Aux éditions Atelier Akatombo, on aura la sortie du volume 1 de Au tombé du soleil, aux éditions Imo, le volume 1 de Regard de la forêt, et enfin, aux éditions Reborn, on aura la sortie du volume 1 de Sinners. Voilà, c'est tout pour les sorties manga de la semaine, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Lovely Day de Upink, et on reviendra juste après pour parler culture, avec notamment les numéros d'urgence au Japon.
Ouais. 왜 언제부터 네가 좋은지 난 잘 몰라 몰라 대체 왜 왜 언제부터 네가 좋은지 난 잘 몰라 그냥 느낌이 좋아 그냥 이렇게 그냥 이렇게 다가와 연예인보다 멋진 걸 내 방 침대보다 편한
Donc c'était Upink avec la chanson Lovely Day. On passe maintenant à la partie culture. On va parler notamment des numéros d'urgence au Japon. Donc très utile si jamais vous partez prochainement là-bas. Donc vous marchez paisiblement le long du sentier aux innombrables marches du Fushimi Inari. Cette randonnée, vous vouliez la faire depuis des années. Vous respirez l'air pur au comble de la joie. Malheureusement, il a plu et le sol couvert de feuilles est glissant. Vous entendez un bruit dans les bois, ne prêtez pas attention où vous mettez les pieds et trébuchez sur une marche mouillée. Vous vous tordez affreusement la cheville et roulez un peu plus bas. Vous êtes seul. Que faire dans cette situation ? Eh bien, c'est une situation toute simple qui est déjà arrivée à des milliers de touristes visitant le Japon. Il est donc important de connaître le numéro des urgences ainsi que quelques mots de vocabulaire en cas de souci. Donc les numéros d'urgence japonais, on a le 119 qui permet d'appeler les secours, une ambulance ou les pompiers. Donc une petite astuce pour le retenir, c'est le contraire du 911 américain. Voilà. Et on a également le 110 pour joindre la police en cas de vol ou d'accident de la circulation. On vous obligera à appeler ce numéro si vous avez un accident avec votre voiture de location par exemple. Donc l'opérateur, dans tous les cas, vous répondra en japonais. L'idéal est donc de maîtriser les bases de la grammaire et le vocabulaire d'urgence japonais afin de lui donner toutes les informations importantes le plus rapidement possible. Si vous parlez en anglais, les interactions seront donc plus difficiles. Pour tout ce qui concerne les vols et les agressions, vous pourrez vous rendre dans un Koban, un poste de police de proximité japonais qui est présent dans toutes les villes. Et sinon, vous pourrez aussi trouver des antidouleurs sans ordonnance dans toutes les pharmacies japonaises. Les plus courants sont nommés Buffaline, prononcé Bafarin donc. En revanche, il faut savoir qu'ils sont beaucoup moins forts que nos médicaments occidentaux. Voilà. Donc on continuera à parler un petit peu des numéros d'urgence et de tout ce qu'il y a à savoir si jamais il vous arrive des soucis si vous partez au Japon. On parlera donc de tout ça la prochaine fois. En attendant, on va pouvoir s'écouter une autre chanson. C'est The Hill of Yearning de April Second. Et on reviendra juste après pour parler du manga L'Oiseau Bleu. No, I'm not you and I'm not you. Thank you.
많이 그리울까요?
Donc c'était April 2nd avec la chanson The Hill of Yearning. On passe maintenant à la présentation du manga L'Oiseau Bleu, du titre original Aoi Tori Wakuraba. Donc c'est un seinen de genre drame tranche de vie qui a été écrit par Murakami Takashi et prépublié dans le Big Comic Original. La version japonaise est parue en 2014 aux éditions Shogakukan avec un total d'un volume qui termine la série, et ce one-shot est paru le 12 novembre 2015 en France aux éditions Kiun dans leur collection Latitude. Vous pourrez retrouver L'Oiseau Bleu dans le commerce au prix de 15€, l'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Trois nouvelles d'une force incroyable, liées par un même fil rouge, comment se reconstruire après la perte d'êtres chers. Donc le résumé de ce one-shot, Yuki Higashimoto est la plus heureuse des femmes, un mari aimant, Naoki, ainsi qu'un adorable garçon de 5 ans, Shu, qui la comble de bonheur. Mais la sortie de route de la voiture qui les ramène d'un innocent pique-nique va sonner de manière cruelle et irrémédiable la fin de cette existence paisible. Le petit Shu ne survit pas à la violence du choc et Naoki est plongé dans un coma végétatif. Pour Yuki, un long combat commence. Comment reconstruire sa vie et préserver un lien avec un mari qui est présent sans l'être. Dans ce manga post 11 mars 2011, l'auteur du remarqué Chien gardien d'étoiles évoque la difficulté de surmonter la perte d'un être cher. Famille, enfance, vieillesse, oubli, la plume poétique de Takashi Murakami parcourt délicatement le cycle de la vie et fait mouche en nous transmettant un formidable message d'espoir. Voilà, donc je rappelle que le one-shot L'Oiseau Bleu est à retrouver aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Kissin de A Prince, et on viendra juste après pour une actualité cinématographique.
Got
Donc c'était A Prince avec la chanson Kiss Scene. On passe maintenant à une petite actualité cinématographique. Donc le film About Kim So-hae de la réalisatrice Julie Chung, qui a notamment réalisé A Girl at My Door, sort dans les salles ce 5 avril. Dans ce long métrage, vous pourrez découvrir la jeune actrice Kim Si-eun et retrouver la célèbre Bae Donna, qui a notamment joué dans Kingdom et Tunnel. Donc le synopsis de ce film, Kim So-hae est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d'études, elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille alors l'attention des autorités locales. En charge de l'enquête, l'inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce qu'elle découvre. Seule, elle remet en cause le système. Donc le film aborde des sujets forts à propos de la construction de l'administration sud-coréenne à travers la vision de deux femmes, la première donc So-hae qui l'a subie, et la seconde Yoo-jin qui enquête à propos de son entreprise. Bien que la réalisation soit assez simple, on comprend que Julie Jung veut que nous soyons immergés dans les sentiments de So-hae et de Yoo-jin et que nous ressentions leur impuissance face à un système beaucoup trop complexe. L'optimisme des débuts et de la jeunesse se retrouve balayé par une réalité qui la dépasse et des objectifs inaccessibles. So-hae représente l'espoir et Yoo-jin celle qui veut protéger cet espoir. Ainsi, l'intrigue se divise en deux parties. D'abord, nous suivrons la vie de So-hae et sa dépression, puis l'enquête de Yoo-jin et son combat. Outre l'histoire, les deux actrices principales montrent leur talent pour transmettre beaucoup d'émotions complexes. Donc lors de l'avant-première, Julie Jung expliquait qu'elle avait été touchée et choquée par l'histoire vraie derrière son film About Kim So-hae. Après une question sur les actions qu'elle voulait faire pour changer le système, elle a évoqué que le film était là pour le dénoncer et qu'il s'agissait d'un premier pas. En effet, c'est grâce au mouvement populaire ou une revue par le gouvernement que les choses pourront évoluer. Elle a également parlé de l'actrice de So-hae, Kim Si-eun. Donc selon elle, le choix de cette dernière a été comme une évidence. Lors de leur premier échange, l'actrice aurait dit que l'histoire de So-hae devait être racontée, ce qui a donc touché la réalisatrice qui a confié au public qu'elle avait parfaitement compris le film. Voilà, donc si ça vous intéresse, le film About Kim So-hae sera disponible dans les salles le 5 avril. Donc j'imagine qu'il ne sera pas disponible dans toutes les salles, donc si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à vous renseigner sur où vous pouvez aller le voir. En attendant, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Graces of Heaven de Haran, et on viendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. Donc c'était Aran avec la chanson Graces of Heaven. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc le groupe Six Stones dévoilera son 9e single Habanero, décliné en 3 éditions, le 12 avril prochain. Habanero, qui signifie « Rebellons-nous », est décrite comme étant une chanson hip-hop agressive qui montre le côté impulsif du groupe. La chanson Drive, incluse dans l'édition régulière, sera utilisée en tant que chanson thème de la publicité pour la marque d'équipementier sportif Reebok, dont le groupe est l'égérie. Elle est décrite comme étant une chanson rythmique douce, parfaite pour prendre la route en voiture. Parodie, également disponible sur l'édition régulière, est décrite comme étant un morceau rock de type Vocaloid. La chanson Hello, présente sur l'édition limitée A, est une chanson hip-hop émotionnelle. La chanson Suisei no Sora, disponible sur l'édition limitée B, est quant à elle une chanson rock. Donc pour refaire un peu le point sur la liste des pistes pour l'édition régulière, on aura donc 6 pistes. Habanero, Parodie, Drive, Jinjin, la playlist performance D6 version. Chillin' With You, la version playlist performance Day 7. Et on aura l'instrumental de Habanero. On aura également un petit bonus avec un photobook de 20 pages. Pour l'édition limitée de type A sur le CD, on aura 3 chansons, Habanero, Hello et God Luck Sunrise Soul Remix. Et on aura également un DVD avec donc le clip de Habanero, le making of du clip Habanero, et on aura également un petit film en solo pour toujours la chanson Habanero. L'édition limitée de type B, on aura sur le CD la chanson Habanero, la chanson Suisei no Sora et la chanson Futari Sunset Chill Remix. Et on aura sur le DVD le documentaire de Koe. Voilà. Et concernant les avantages pour la précommande en first press, dans la limite des stocks disponibles bien sûr, pour l'édition limitée de type A, on aura un multi-case Habanero. Pour l'édition régulière, ça sera un clear file Onajimi. Et pour l'édition limitée de type B, ça sera un desk card Casarero. Voilà, du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson Habanero de Sixton pour terminer l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera pas lundi prochain puisque c'est Pâques. Donc, ça sera lundi dans 15 jours pour une nouvelle émission Asian Bubble, donc qui sera sur Neptune FM de 21h à 22h. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Habanero, break it down now. Show me what you got.
Break it down.
Habanero, monsters. We together.
I'm a messy monster.
Monsters, we together.
Quite my nice monsters.